Il faut savoir dire non. Pourquoi faudrait-il savoir dire non? Dans un monde où l'acceptation est devenue le maître mot, l'attitude magistrale à avoir, le oui étant la manifestation verbale de l'acceptation, de la positive attitude. Mais alors, pourquoi devrais-je vous encourager à dire non alors que la tendance béate vous incite au oui? J'ai dit la tendance béate parce que je pense, en toute sincérité, que l'acceptation est un travail fondamental, l'apprentissage d'une vie, et qu'il ne suffit pas de dire oui pour avoir accepté. Encore du folklore à la mode zen. En parenthèse, en aparté, zen est une tradition bouddhiste qui est originaire du Japon et qui repose essentiellement sur la pratique de la méditation et l'étude des kans. Ceci étant des enseignements pédagogiques distillés par les maîtres zen et basés sur l'interprétation profonde d'énigmes irrationnelles que l'on installe dans l'esprit et que l'on laisse mûrir jusqu'à l'apparition de l'évidence. Je suis tout à fait admiratif des enseignements zazen, mais c'est simplement son utilisation banalisée à toutes les sauces bobos qui prêtent à sourire et qui finissent par galvauder cette pratique ancestrale et la reléguer au rang d'un simple folklore. Au même titre que les signes religieux ostentatoires tatoués sur la peau ou la parole au nom de Dieu associée aux pires insultes. Même folklore. Point de spiritualité, point d'amour, juste de la mode. Finalement, savoir dire non serait-il un exercice qui participerait à votre éveil spirituel et à votre paix? Le fait de dire non ne serait-ce pas une véritable forme d'honnêteté? Être en accord avec soi-même, au diapason avec ses pensées. Ainsi, à contrario, le oui systématique d'une totale malhonnêteté. Les enfants passent par cette étape, ils disent non systématiquement. Les pédopsychiatres l'appellent la phase d'opposition. C'est une période importante dans la construction psychique de l'enfant. Cela correspond à trois changements liés entre eux. Le premier, l'enfant se perçoit alors comme un individu à part entière avec sa pensée propre et il le revendique. Le non lui sert à exprimer ses désirs. Le second, il a compris que sa volonté était souvent différente de celle de ses parents. L'utilisation du non lui permet de commencer petit à petit un processus d'autonomisation vis-à-vis de ses parents. Et le troisième, l'enfant expérimente les limites de cette autonomie nouvelle. Il teste donc sans cesse ses parents pour déterminer les limites. C'est une période essentielle dans la construction du futur adulte. Le rôle des parents, à ce stade, aura une importance capitale entre la répression et la permission. Encore un sujet vaste et tellement intéressant. Quel est le rôle des parents dans l'éducation des enfants? De toute évidence, cette période de l'enfance et la façon dont elle sera gérée par l'entourage proche déterminera en grande partie sa capacité de futur adulte, à savoir dire non. Avez-vous remarqué que dans votre entourage, certaines personnes disent toujours oui? Je parle de ce oui systématique, ce oui qui les obligera à se couper en quatre pour satisfaire le désir des autres. En effet, impossible de refuser, peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être jugé, de passer pour ce que l'on n'est pas. Comment serait-il envisageable de dire non? Non, ce serait alors s'exposer à la vindicte. Ce serait ne plus être indispensable, refuser les sollicitations, perdre de l'importance et peut-être même ne plus exister. Et pourtant, c'est bien tout le contraire. Dire non, c'est exister. À cet instant précis, c'est vous qui décidez, c'est votre libre arbitre qui a pris le pouvoir. Dire non est une forme de liberté fondamentale. J'ai une anecdote à vous raconter. Cela remonte à plus d'une quinzaine d'années. J'avais un jeune ami, boxeur professionnel, qui n'avait pas encore 20 ans. Il était devenu l'homme à tout faire, le porteur de valises d'un faible quadragénaire, égocentrique et manipulateur, en mal de protection et de reconnaissance. Cet homme, que nous appellerons Jean-Pierre, avait jeté son dévolu, son emprise intellectuelle sur mon jeune ami, que nous appellerons Mohamed. Pour certains, la force est un outil de contrainte, un moyen de soumettre, et pour d'autres, c'est la manipulation intellectuelle qui esclavagise. Ainsi, les demandes de l'esclavagiste intellectuel devenaient de plus en plus courantes, systématiques, oppressantes. Ce qui était au départ des échanges, des services amicaux, devenait peu à peu des contraintes, des obligations. Au point où cette situation était devenue, pour Mohamed, insupportable et malheureusement inextricable. Malgré l'extraordinaire force de combattant qu'il déployait dans ses entraînements et ses combats, il était dans l'incapacité de dire non à l'oppresseur. Un soir, alors qu'il était à bout et que cette situation le rongeait, il partagea avec moi son désœuvrement. Encore une fois, une énième fois, Jean-Pierre le sollicitait pour l'accompagner en promenade, alors qu'il était 22 heures. Je lui conseillais donc de refuser. Je lui sommais plutôt de dire non. En première réaction, il resta quoi? Puis balbutia quelques bribes de phrases du style « Je sais pas, mais il va devenir dingue. Je lui dis non direct, comme ça. Tu ne crois pas que je devrais... etc., etc. J'insiste à nouveau en lui disant « Tu l'appelles et tu lui dis que ce n'est pas possible. Tu es fatigué et tu ne peux pas venir. » Bon, ok. Appelle-le maintenant et tu me rappelles tout de suite pour me confirmer que tu lui as dit non. Tu verras, il faut t'attendre à ce qu'il n'accepte pas le non, ton non, et qu'il passe par tous les stades. Celui qui ne comprend pas, celui qui pleurniche, celui qui devient agressif, il tentera de te manipuler par tous les moyens. Je pense qu'il n'y a rien de pire que l'individu qui perd son emprise, sa possession. Rien de plus terrible que le manipulateur qui perd sa proie, le bourreau dont la victime s'échappe. Il déploie alors des stratégies pour le culpabiliser, pour lui faire peur, mais également pour qu'il s'apitoie sur son pauvre sort. C'est effectivement ce qui s'est passé. Voici un article intéressant sur le sujet de l'égocentrisme, la manipulation et la perversité. Vous trouverez le lien donc dans mon article, c'est Hystérie et perversion, le pervers narcissique. J'ai la forte impression que dès qu'il est question de discorde, particulièrement dans le couple, surgit le spectre du pervers manipulateur, souvent à juste titre, hein. Mais pas toujours. Le manipulateur n'est parfois pas celui qu'on pense, ni la victime d'ailleurs. Bon, Mohamed a tenu bon et a maintenu son nom sans fléchir, malgré les assauts de la bête meurtrie. Ce fut un tournant essentiel dans la vie de Mohamed. Il y a eu avant cet épisode et après. Il est passé évidemment par une période de non systématique. Bon, c'est pas toujours mieux que le oui systématique, mais lorsqu'on goûte à la liberté, on en abuse. Il n'a plus jamais été ce consentant automatique. Et je pense même que cet épisode important aura eu une répercussion majeure sur les choix qu'il a faits et qu'il fera tout au long de son existence. C'est réellement une épreuve de passer à l'acte du non. Je ne suis pas d'accord, je m'oppose, je décide à mon âme et conscience qu'il n'en sera pas ainsi. Cette situation ne me convient pas. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. J'exprime mon avis parce qu'il correspond à mon ressenti. Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde et nous ne pouvons pas satisfaire continuellement les autres au détriment de leur bien-être et fort souvent au détriment de leur santé physique et mentale. Si vous êtes cette personne qui dit oui à tout, prenez un peu de recul et analysez la situation. Est-ce que votre consentement dogmatique à éviter les conflits augmente la considération à votre égard? Est-ce que cela empêche une partie de votre entourage à être médisant à votre endroit? Certes, non. Vous n'en ferez jamais assez. On vous fera toujours des reproches et vous en ferez toujours plus jusqu'à finir par vous perdre vraiment. Quand vous avez la conviction que le « oui » n'est plus acceptable, alors, osez dire « non » à vos collègues de travail, à votre conjoint, à vos enfants, à vos amis. Vous prendrez enfin le contrôle de votre vie. Voici un abstract qui met en évidence le savoir dire non dans le milieu médical. Vous trouverez donc le lien dans mon article. J'ai trouvé vraiment intéressant la corrélation que l'on peut faire entre les personnes lambda dans l'incapacité de dire non et les médecins érudits dans le domaine des sciences, instruits aux choses de l'esprit et de la psychologie, qui tombent eux aussi dans le panneau. Je voulais simplement mettre en évidence que ce n'est pas une question d'intelligence, de milieu socio-professionnel ou de connaissance. Il n'y a pas de profil type, personne n'est épargné. Savoir dire non pour celle ou celui qui souffre d'avoir toujours dit oui est une renaissance, un changement fondamental. C'est tourner le dos définitivement à une addiction, passer outre ses peurs, une vraie forme de courage. Ce que je vous explique vous semble logique. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir.